pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils, on l'ouvre, il y a toujours des outils dedans, évidemment. Il y a un mètre qui permet de mesurer les choses et il y a autour de cette définition même de la métrique, des questions philosophiques qui se posent. Et surtout, quand on parle de patrimoine, c'est quoi être riche? C'est quoi un haut revenu? C'est quoi un haut patrimoine? Et bien, même nos parlementaires et même nos dirigeants n'arrivent pas à donner une réponse précise. On va essayer de trouver quelques réponses avec Olivier Jeanneret de Duroc Partners. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors heureusement, bon voilà, on est affranchi de toute considération politique. Mais voilà, il y a une commission d'enquête là en ce moment qui travaille sur c'est quoi être riche? C'est quoi, comment taxer de manière à la fois équitable et proportionnée les hauts patrimoines, les hauts salaires, etc. Et pour l'instant, globalement, on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas. Ouais. Et on ne parle même pas d'une commission, il y a deux commissions. Il y a l'Assemblée nationale qui a la sienne, oui. Il y a le Sénat. Qui a la sienne. Le Sénat vient de publier son rapport. L'Assemblée nationale, on devrait avoir un rapport au mois de juillet.
Et vous pourrez être sûr qu'ils ne seront pas d'accord l'un avec l'autre?
Je pense qu'il y aura quand même quelques axes, en tout cas, d'accord en la matière. Juste pour revenir, l'origine de ces commissions d'enquête, c'est une phrase d'Éric Lombard, de l'ancien ministre, qui disait qu'il y avait plus de 13 000 personnes en France, foyers fiscaux, qui payaient de l'IFI, de l'ISF avant, de l'IFI aujourd'hui, l'impôt sur la fortune immobilière, sans payer d'impôt sur le revenu. Quand même quelque chose qui pouvait être étonnant dans ce constat-là. On a un patrimoine, mais on n'a pas de revenus taxables. Et donc de là, on a ces deux commissions qui se sont lancées. Le Sénat a publié son rapport. L'Assemblée devrait, comme je le disais, publier le sien dans quelques jours, quelques semaines. Il y a un constat qui est assez extraordinaire dans le premier rapport et qu'on devrait retrouver dans le second rapport, c'est qu'on n'a pas de définition de qui sont les riches. Il n'y a pas non plus, et ça c'est important, il n'y a pas d'affirmation comme quoi les riches, si tant est qu'on puisse les définir, ne payent pas d'impôts, ou pas suffisamment.
En plus.
Et au contraire, là où il devrait y avoir un point d'accord, c'est qu'on ne sait pas mesurer la richesse, on ne sait pas qui a de la richesse, qu'on est dans une période aujourd'hui où il y a de la numérisation de toute la documentation, il y a l'intelligence artificielle qui est sur la table, tous les jours on en parle, et pour autant, l'administration fiscale, Bercy, n'a pas d'informations sur les patrimoines les plus complexes. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, on a beaucoup d'informations qui sont transmises automatiquement. L'employeur doit transmettre les salaires de ses salariés. Ouais. Les banques doivent transmettre les plus-values, les dividendes, les intérêts qui sont réalisés par leurs clients. Mais quand on a un patrimoine complexe, à l'époque de l'ISF, il y avait des obligations déclaratives annuelles.
Oui, tout à fait.
Après, chacun pouvait avoir une certaine latitude, en tout cas dans ce qu'elle intégrait dans sa déclaration, même si tous les éléments de patrimoine devaient être indiqués. Mais aujourd'hui, avec l'impôt sur la fortune immobilière, on a fait un pas en arrière sur la connaissance. Et justement, c'est ce que pointe du doigt le Sénat aujourd'hui, ce que devrait pointer du doigt l'Assemblée nationale demain, c'est qu'on n'a pas la mesure, on ne sait pas ce qu'il en est. Et ça veut dire quoi? Surtout, c'est ça qui est important, il y a un constat journalistique, politique, c'est que tout le monde a faux. La droite qui dit que les riches payent déjà suffisamment d'impôts, ils ont faux, nécessairement, puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas la mesure. La gauche qui nous dit les ultra-riches ou les riches ne sont pas suffisamment taxés, ils ont faux également. Mais aussi tous les économistes ou commentateurs qui viennent nous dire il faut réformer la fiscalité pour réduire les inégalités, ils ont faux également. Gabriel Zucman, dont on a énormément parlé ces derniers mois, très probablement, il a faux également parce qu'on n'a pas la mesure de ce que sont les patrimoines aujourd'hui des Français et des 0,1% les plus riches, parce que c'est ça qu'on essaye de viser dans ces rapports.
Alors, c'est intéressant parce que on a premièrement des obstacles politiques, puisque de droite, gauche, définir la richesse, c'est quand même prendre un risque. Et ensuite, on a ce manque d'informations. Et est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on va quand même être capable de dire ça appartient à, c'est soumis à telle taxe et à telle imposition, ou est-ce qu'on va continuer à patouiller finalement du côté du régulateur comme du côté du soumis à l'impôt, qu'il soit riche ou pas finalement?
Il y a la barrière psychologique qui est partagée par tout le monde, vivons heureux, vivons cachés. Donc être tous les ans confronté à devoir, faire une coloscopie fiscale de son patrimoine, on n'en a pas très envie. Donc c'est certain qu'il va y avoir de la réticence du côté des contribuables, et le politique n'est rien d'autre que le reflet de ses contribuables.
Bien sûr.
Donc ça m'étonnerait qu'on fasse un pas en avant. On a 15 ans de retard en termes d'information. en la matière, pouvoir rattraper ce retard en un an, deux ans. Je ne sais plus quel. Alors, les journaux ont tous fait leur titre comme ça, et je crois qu'il y en a un qui disait voilà, 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est dans la panade, en réalité, en la matière. Et donc, 20 ans de retard, ça ne va pas se rattraper en quelques mois, quelques années, avec cet horizon de 2027, où clairement, la fiscalité du patrimoine est un sujet. De campagne, on le voit hein, avant ces commissions d'enquête, on a eu tout le laïus sur la dernière loi de finances avec cette taxe Duckmann qui est devenue une taxe sur les holdings très mal ficelée, etc. Clairement, on a un sujet qui va être très lourd sur 2027, quel que soit le camp qui l'emportera demain, ça sera un sujet à traiter. Et pour autant, si le leitmotiv c'est toujours réduire les inégalités par des réformes fiscales, ben, on n'a pas la donnée pour.
Cela dit, vous me dites 15 ou 20 ans de retard. Si je remonte 15-20, c'est pas la période où l'immobilier a commencé à grimper ? Est-ce que c'est pas le principal problème finalement ?
Exactement. Alors, c'est aussi ce que viennent chercher ces rapports, c'est d'essayer d'expliquer comment les gens sont devenus riches. Et dans les différents facteurs, parce que c'est multifactoriel comme on peut l'imaginer, il y a le boom de l'immobilier. En réalité, la croissance de l'immobilier, la valorisation des matières premières qui était supérieure à la croissance du PIB, a créé des richesses sur celles et ceux qui ont pu se positionner à un moment donné, quelque part, d'être arrivés au bon moment, au bon endroit.
Ça a fait de nous tous des pêcheurs de l'île de Ré, comme on les appelle.
Exactement. L'agriculteur qui est devenu retraité de l'île de Ré, qui est assis sur un patrimoine foncier qui est extrêmement important. Ouais. Donc ça, c'est un des facteurs. Mais l'augmentation de l'espérance de vie est un autre facteur.
Bah oui, aussi, oui.
La réduction de la natalité est un autre facteur, puisqu'on divise moins les patrimoines. On les divise plus tard, mais on les divise moins. Donc forcément, les inégalités ne peuvent que se creuser. Mais dans les autres facteurs, on a aussi le fait qu'il y a un taux d'épargne très élevé en France. Il y a une culture de la donation qui n'est pas du tout ancrée, c'est-à-dire qu'on attend les successions pour transmettre et on ne transmet pas avant de son vivant. Et d'ailleurs, c'est là où certains commentateurs autorisés, si on peut dire, de la loi fiscale se disent qu'il faudrait peut-être donner quelque part une carotte pour pousser les gens à donner.
Et ça, on vous le dit suffisamment jour après jour, c'est un processus qui est long et qu'il faut préparer bien à l'avance.
Exactement, et je dirais, dans mon escarcelle, il y a un des facteurs, c'est les taux marginaux d'impôts qui sont très élevés en France, avec des niches fiscales qui sont pléthorique. Mmh. Et un des exemples, on en a déjà parlé sur la fiscalité des transmissions, on sait qu'on a un barème progressif de l'impôt qui est à 45% au taux marginal entre parents et enfants, mais en moyenne, si on prend tous les Français, toutes les transmissions, on est à moins de 3%. Donc il faut quand même imaginer que tous ces éléments-là ne sont pas de nature à créer un climat optimal pour une meilleure transmission, réduire les inégalités, c'est aussi réduire les inégalités intergénérationnelles. Peut-être que c'est la première chose à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire en 1789, post-révolution. L'idée, c'était réduire les inégalités. La première des inégalités, c'était intergénérationnelle et entre les membres de la fratrie avant d'aller chercher les inégalités sociétales.
Bon, là, on a encore un bassin de réflexion. Et on n'y est pas encore. Hein. On manque vraiment d'éléments. Allez les voir. Allez toquer aux commissions, allez les voir, parce que ça avait quand même quelques, non pas des réponses, mais des éléments de réflexion qui sont quand même très enrichissants. Merci beaucoup Olivier Jeanneret du Rock Partners.